Et la deuxième heure démarre avec Roland One Man Band et Marco Ballan, ça s'appelle Poor Boy. Avec Mathieu Pesquet au banjo sur ce titre Poor Boy, également un autre invité sur un autre titre qu'on découvrira bientôt, San Severino sur Ain't Nobody's Business. Et puis voilà, donc Stéphane Avalianada également pour la batterie sur Nothing But The Blues. En tout cas, un 13 titres à découvrir absolument. Ronan One Man Band et Marco Ballan, l'album Long Way From Home qui sort ces jours-ci. On poursuit avec le disque du mois, c'est toujours Tiger Rose. Voici The Last Kind Words, l'album Boogie Blues and Roots. We'll be right back. Dernier mot gentil, The Last Kind World, ça fait partie de l'album Boogie Blues and Roots signé Tiger Rose avec Loretta et Mig. Encore merci pour ce bel album qui nous aura accompagné durant tout le mois de mars. On en découvrira encore un autre extrait en fin d'émission. En attendant, place à notre invité, Doc Lou and the Roosters. Doc Lou sera au téléphone juste après ce titre, Back to Louisiana. Voici le titre éponyme. Et si vous avez des questions à poser à Doc Lou au fil de l'actu, au fil surtout du direct, puisque cette émission n'est pas enregistrée, on est d'accord, c'est du direct, eh bien vous pouvez le faire sur le Facebook Sweet Home Chicago. Voilà, vous posez toutes vos questions à Doc Lou.
Faster to get it back on me. twice. I'm gonna leave my country and get back in first class.
Back to Louisiana, c'est également le titre de cet album de Doc Lou and the Rooster. Je suis au téléphone avec Doc Lou, le chanteur harmoniciste. Bonjour Doc.
Salut Marc.
Ah, on t'entend bien, impeccable. Alors dis-moi, premier passage dans Sweet Home Chicago, pourquoi? Ben parce que tu es un artiste que je découvre, même si ça fait peut-être des années que tu joues. On va, à travers cette interview en direct, si tu veux bien parler de ton parcours, ton arrivée dans le monde de la musique tout d'abord. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as eu un grand frère guitariste de rock, un papa collectionneur de disques, une maman chanteuse de gospel ou un cousin bluesman?
Eh bien écoute, pas vraiment, non. Je crois que ça s'est surtout fait à travers des voyages que j'ai eu la chance de faire à travers les États-Unis plusieurs fois, en famille la première fois d'ailleurs. Je crois que ça a vraiment commencé comme ça quand on est parti en famille avec mes parents, mes frangines, et puis c'est moi, j'étais celui qui parlait le mieux anglais dans la famille, et puis j'ai organisé ce voyage à travers le sud des États-Unis en ciblant en particulier les endroits dédiés au blues, à la country, à la musique folk, et ça s'est fait comme ça.
C'est comme ça que tu as découvert les créateurs du blues, mais comment est-ce que tu as découvert cette musique de ce côté-ci de l'Atlantique?
Mais écoute, j'ai fait une partie de mes études, quoi, de ma scolarité à Paris, et j'ai pris quelques cours dans l'école du souffle du blues à l'Utopia, dans le 14e arrondissement.
Auprès de Greg ou auprès de Jean-Jacques Minto?
Et mais non, c'était Bacco.
Bacco, pardon, bah tu vois.
Ouais. Pascal Bacco.
Pascal Michelian, voilà, d'accord, ouais. D'accord.
Et puis, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui ou même ces dernières années, mais bon, à l'époque où j'y étais, il y a une dizaine d'années, un peu moins, quoi. C'est vrai qu'il y avait encore pas mal de petits clubs, de petits bars où ça jouait du blues. Et puis c'est là où j'ai vraiment fréquenté, voilà, quoi, des musiciens locaux. J'ai joué avec un certain Eddie King, avec Junior Vic, et puis avec d'autres personnes qui traînaient par là.
Eddie King, tu parles de Eddie King, l'ancien guitariste de Coco Taylor?
Non, je pense pas que... Non, c'est
non
pas lui.
D'accord. Non. Et donc, ta découverte du blues, tu l'as faite, j'allais dire, grâce à l'instrument. C'est l'harmonica qui t'a amené au blues, c'est le blues qui t'a amené à l'harmonica. Comment ça s'est fait, la rencontre avec l'instrument harmonica?
Je crois que c'est un peu les deux, parce que... Quand j'étais plus ado, si tu veux, moi j'ai eu plusieurs groupes plus d'influence punk rock. Là, on jouait dans un local à poubelle qui avait été transformé en local de musique à Nancy, parce que je suis lorrain, quoi, d'origine.
Oui, on va parler de tes origines, on va parler de l'est de la France aussi dans cette interview. Si
ok. Tu veux bien. Et donc j'écoutais beaucoup de punk rock, mais en fait quand on s'intéresse à cette musique et qu'on remonte aux origines. Après, j'en suis arrivé au blues, et puis c'est à peu près au même moment où je me suis mis à l'harmonica, mais vraiment en dilettante, parce que il y avait pas mal de jam et je me disais, bon, il y a trop de guitaristes, il y a trop de batteurs, il y a trop de chanteurs, donc moi, avec un harmonica, je vais peut-être réussir à faire ma place.
Ouais, et puis en plus, c'est plus facile à mettre dans une poche, évidemment. Voilà, le plus évident, le plus facile pour Buffet étant d'être simple chanteur, mais c'est ce que tu fais également. Tu t'es mis au chant à quelle occasion?
Je pense que le chant, c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire que c'était assez compliqué en jouant juste de l'harmonica d'intégrer des groupes. Et puis peut-être, ça fait aussi partie de ma personnalité, mais au fur et à mesure, certains des groupes que j'ai faits, je me suis retrouvé un petit peu à avoir la position du leader. Enfin, peut-être parce que j'étais le plus entreprenant, quoi, à trouver des concerts et tout ça.
Ouais.
Et donc, bon, par la force des choses, être juste à l'harmonica, c'était pas suffisant. Donc, je me suis mis à chanter, puis bon, c'est vrai que j'aime bien être aussi mis en avant, quoi, briller, donc ça aide quand on est chanteur.
Bah oui, en général, c'est le chanteur dont on parle dans le groupe. Alors, il y a quelques exceptions, il y a des harmonicistes qui ne chantent pas, il y a des guitaristes qui ne chantent pas et qui embauchent, qui empruntent les talents de chanteurs d'autres. Toi, tu es leader, c'est Doc Lou and the Woosters, quoi, c'est décomplexé, c'est ton groupe et tes accompagnateurs, on est d'accord?
Bon, alors oui, voilà, ça c'est le nom. Après, il y a quand même une complicité qui se noue là, avec les musiciens.
Ah oui, mais ce qui n'empêche pas, bien sûr.
Et on est quand même plus un groupe, si tu veux, que moi qui travaille avec des gens qui ne font que m'accompagner. Quoi. Au contraire, quoi, c'est vraiment des amis, des gens en qui j'ai pleine confiance.
Mais c'est quand même à l'américaine, sous ton propre nom. Enfin, moi, je trouve ça bien, parce qu'il y a quand même pas mal de musiciens qu'on a du mal à retrouver, parce qu'ils font partie de plusieurs groupes différents, et quand on essaie de voir leur historique, bah, c'est très, très compliqué. Toi, on te retrouve relativement facilement. Même si tu as fait partie de groupes qui ne portaient pas ton nom auparavant, on peut en parler de ces expériences que tu as eues avant les Roosters?
Oui, avec plaisir, ouais. Mais le groupe avec lequel j'ai fait vraiment pas mal de concerts quand j'étais à Paris, c'était les Perfecto,
ouais.
avec un ami guitariste, petit rocker, Victor Pitoiset, et c'était un groupe de rockabilly où on chantait en français. Et moi, j'étais principalement à la batterie, je jouais de la batterie debout et je chantais, donc c'était un duo où on a eu plusieurs contrebassistes. Donc, dans un autre esprit, quoi. Voilà,
plus tu joues aussi de la batterie, ça j'ignorais. Je suis pas allé jusqu'à fouiller jusqu'au Perfecto, mais du rockabilly en français, moi, à part les Forbans, j'en connaissais pas d'autres.
ouais, on a tenté un truc, quoi. C'était pas évident à maintenir, mais voilà, il y a eu ça. Après, bon, j'ai été un petit peu sideman quand j'étais à Paris de groupe, voilà, bon. On va dire avec une notoriété locale, quoi. Donc le Junior Big Band, j'ai joué avec un certain Eddie King, je participais à pas mal de jams aussi à l'harmonica, et puis après j'ai fini par monter mon propre trio qui s'appelait à l'époque Doc Lou Trio.
D'accord. Et alors, justement, cette question par rapport au groupe existant, je sais qu'il y a eu plusieurs changements de personnel. Et là, avec Jeff Huck, ça fait un petit moment, mais avec Michel Geronimo, c'est relativement récent. Comment est-ce que tu as rencontré tes deux acolytes, respectivement Jeff et Michel?
Mais écoute, Jeff, ça s'est fait quand j'ai emménagé, donc à l'époque, en 2015, en Occitanie, dans l'Aveyron. Donc perdu dans l'Aveyron, et puis c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me professionnaliser, à faire des tournées.
Mmh.
Et j'avais beaucoup de mal à trouver un guitariste dans ce coin très rural, quoi, de la France. Et en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un certain Jeff Hughes qui jouait à l'époque avec son groupe dans les coins de Narbonne. Et j'ai beaucoup aimé, moi, ce qu'il faisait. Je l'ai contacté. Bon, il m'a répondu qu'on avait quand même 250 km de distance, que ça allait être un peu compliqué. Et puis, on a commencé à faire des concerts en duo. Il m'a fait confiance. Depuis donc 2016, on a beaucoup, beaucoup joué en duo. Je pense plusieurs centaines de concerts, pas mal sur la côte méditerranéenne.
D'accord.
Et c'était beaucoup des sets de reprises. Et c'est qu'à partir de 2019, je dirais qu'on a commencé à mettre en forme mes compositions que j'avais enregistrées à l'époque avec une autre équipe, un quartet.
Mmh.
Donc on les a mis en forme en duo. Et puis pour cet album, on a beaucoup discuté. On voulait rajouter un percussionniste quand même pour donner plus de corps à mon nouveau répertoire. Et lui, donc Jeff avait un collègue avec qui il a fait ses premiers concerts à l'époque dans Jeff & Co. qui s'appelle Michel Geronimo. On a discuté. On est allé bouffer au Grand Buffet à Narbonne. On a pas mal On a pas mal causé, puis il a décidé d'intégrer cette formule. Donc en fait, c'est vraiment Jess et Michel, c'est on va dire deux amis d'enfance qui jouaient ensemble il y a près de 30 ans, quoi.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a en fait deux générations dans le groupe Doc Lou and the Roosters. Il y a toi, donc tu m'as dit que tu étais né en 1989, donc tout jeune, 31 ans, à peine 32 ans pour de ton côté. Et puis tes deux compères qui, eux, ont largement passé la cinquantaine, je crois.
Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, et tout à fait. Donc, bon, après, c'est des jeunes dans l'âme, hein. Ça, y a pas de souci.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai que, dans Sweet Home Chicago, on a l'habitude d'interviewer, des gens de toutes les générations, tous les âges, mais, en dessous de 30 ans, enfin, en dessous de 35 ans, ça reste relativement rare. C'est vrai que le blues, ça conserve, hein. Tu as de belles années devant toi, je peux te le prédire. Sache que tu es né, 6 ans après que j'ai démarré à la radio, tu vois. T'imagines comme le blues, ça conserve. Voilà. Il faut t'appeler comment dans la vraie vie? Il faut t'appeler Lou, il faut t'appeler Doc, il faut t'appeler Doc Lou, il faut t'appeler comment?
Il faut m'appeler par mon prénom autrement.
Bon, très bien, j'y manquerai pas. Alors comment ça se fait cette osmose avec deux jeunes gens d'une autre génération que la tienne, sachant que la musique, c'est vrai, on ne connaît pas de frontières, et puis il n'y a pas forcément d'âge pour jouer de la musique, on est bien d'accord. Il peut y avoir 3 ou 4 générations sur un même groupe, il y a des précédents, mais voilà, les fins de soirée, ça, j'imagine qu'il y en a un qui est toujours à fond, et puis les deux autres qui, bon les gars, on va peut-être aller se coucher là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Bah écoute, en vérité, bon, il y aurait plusieurs choses à dire. C'est vrai que déjà aux côtés de Jess, j'ai vraiment beaucoup appris, parce que ouais. Moi, si je remonte en 2015-2016, pour moi le blues, c'était on branche une guitare dans un ampli et puis on y va, quoi. Et en fait, je pense que j'ai...
C'est un peu ça quand même, non? C'est quand même un peu ça.
Oui, bah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu fanfaron, peut-être trop sûr de moi. Et puis, c'est vrai qu'avec Jeff, je pense avoir beaucoup progressé, parce que c'est quelqu'un qui joue depuis des années dans plein d'endroits différents. Et on a beaucoup travaillé le son. Il m'a fait pas mal de remarques, de critiques qui pouvaient être parfois dures à avaler, mais qui m'ont permis de progresser. Et c'est vraiment, il y a vraiment eu pour moi une étape de professionnalisation, quoi, à ses côtés. Par contre, si on veut parler de faire la bringue, je dois avouer que c'est pas forcément moi qui suis le plus bringueur de l'équipe. J'ai plus l'impression que c'est eux, quoi.
D'accord. Bon, ben, alors, il y a encore de longues années, effectivement, à passer ensemble. On parlera, bien sûr, de tout ça en fin d'émission, parce que, ça sera l'avenir du groupe, bien sûr. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur cet album, le temps d'un titre, qui s'appelle Can't Quit You. Et justement, on va pas se quitter. On se retrouve juste derrière. Tu veux bien?
Allez, avec plaisir.
À tout de suite.
Cuts me so, and I won't have to lose the pretty girl in me, 'cause I can't quit you, baby.
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 Lord, I can't quit you, baby. Another girl.
I Can't Quit You Baby, extrait de l'album Back to Louisiana par Doc Lou and the Roosters. Voilà, toujours en direct avec Lou. Toujours là ?
Ouais, toujours là.
Bon, super. Écoute, on va poursuivre cette interview. Je rappelle qu'on est en direct. Vous pouvez également, vous, les auditeurs, intervenir si vous souhaitez poser toutes vos questions à Lou sur le Facebook Sweet Home Chicago. Pour l'instant, j'ai pas enregistré de questions. Ça ne saurait tarder. Il y a des choses que j'aimerais savoir sur le groupe, mais également sur toi. Il y a des petites questions un petit peu personnelles parce que tous les musiciens sont pas là pour répondre. Par exemple, quel est ton meilleur souvenir de concert avec eux d'abord?
Eh bien, écoute, avec le trio, on n'en a pas fait tant que ça, puisque bon, étant donné le contexte, la première date qu'on a fait ensemble, c'était quand même sympa, puisque c'était pour la Toulouse Blues Society, donc à Toulouse.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, parce qu'il y avait toutes ces complications avec le Covid. Et j'ai le souvenir qu'on a passé vraiment un bon moment, quoi, de complicité face à un public vraiment. Vraiment intéressé, quoi. C'est alors, en juin de l'année dernière, ouais.
Juin, alors on est en 2020, non, 2019 plutôt, alors, à ce moment-là, non ?
Non, c'était en juin 2020, ouais. C'est,
ça a pu se faire quand même, d'accord.
L'ajout de Michel Géronimo aux percussions est quand même assez récent, quoi.
Très bien. Là, je t'entends parler de Toulouse. Tu disais être originaire de Nancy, avoir joué à Paris, être parti en Aveyron, avoir joué à Narbonne. Où est-ce que tu es basé actuellement ? On a du mal à te suivre.
Et ben actuellement je suis encore en transit, j'ai beaucoup déménagé cette dernière année pour tout un tas de raisons.
Ouais.
Et là pour l'instant je suis entouré de ma famille, de quelques amis à Nancy, justement la ville où je suis né.
Alors si on parle de Nancy, il y a des gens qui sont originaires de cette ville, mais également d'autres villes qui sont autour. Tu sais, pour ici en Normandie, Nancy c'est un peu le Grand Est. Est-ce que tu peux... On peut citer des gens comme Charlie Couture, Fred Chapelier, Charlie Faber, ils ne sont pas si loin que ça. Qui est le plus grand bluesman de l'Est, selon toi, Lou?
Ah ouais, ça c'est une bonne question. Écoute, en vérité, je ne les connais pas bien. Moi, je sais que j'ai quand même appris l'harmonica grâce à un certain Paul Lassé qui est basé à côté de Nancy. Ouais.
D'accord, Paul Lassé, ouais, on le passe de temps en temps dans la radio. Il est largement présent également sur les réseaux sociaux et puis il fait part de pas mal de trouvailles au niveau de l'harmonica. C'est quelqu'un que tu écoutes de façon pédagogique ou amicale ou les deux ?
Mais c'est un peu les deux, quoi. C'est vrai que c'est la première personne vraiment avec qui j'avais pris sérieusement des cours, donc il y a plus de 10 ans maintenant, mais ouais.
C'est qui tes influences en matière d'harmonica ? C'est forcément des Américains ou ça peut être des gens comme lui, Paul Lassé ou Baco ?
Alors si on veut parler des Français, je suis assez dur en besogne,
ouais.
Mais il y en a quelques-uns vraiment que je porte dans mon cœur. Notamment Youssef Remadna.
Ouais, on en parle souvent de Youssef. C'est vrai, quand je pose la question à un harmoniciste, qui tu préfères ? Il arrive dans les trois premiers rues, Youssef, à chaque fois. C'est incroyable.
Ouais, mais lui, enfin, vraiment, il a une sensibilité. Et puis je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite par rapport à sa, voilà, à son talent. Il y a aussi Stéphane Bertolino du groupe AWEC,
ouais,
basé sur Toulouse.
Ouais.
Et puis Nico Wayne Toussaint.
Oui, bien sûr.
Qui est plus dans les coins de peau. Après, bon, moi, il y a évidemment Benoît Blueboy que j'apprécie beaucoup. Disons que moi, je reste quand même très, très influencé par des harmonicistes qui savent jouer à la sauce swamp blues.
Ouais, et qui sont plus classiques, j'allais dire. Tous les artistes que tu me cites, ce sont des harmonicistes qu'on peut qualifier de traditionnels, contrairement à des gens comme Greg Slapp ou Jean-Jacques Milteau.
Oui, c'est vrai, ouais. Bon, alors après, Jean-Jacques Milteau, j'ai écouté évidemment, Greg Slapp aussi. Et moi, je dois avouer que l'harmonica... c'est pas un instrument, enfin, comment dire, les harmonica héros, là, qui mettent plein de notes, qui font des trucs très techniques, moi, souvent, ça me touche pas.
Ouais, comme un Sugar Blue du côté des États-Unis, par exemple.
Voilà, par exemple. Alors après, ça peut être des gens humainement qui sont super, hein, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel
d'accord.
J'ai beaucoup d'affinité. Par exemple, si je devais citer qu'un seul américain, je citerais Lazy Lester.
Ah oui, voilà, d'accord, Lazy Lester, effectivement. Et parmi les classiques...
Il y a une élégance, une classe, et pourtant, ouais. C'est pas très technique, mais Mais par contre, il y a vraiment une âme dans sa musique, une musicalité que je trouve extraordinaire.
Tu évoquais Benoît Blueboy, ils ont enregistré un album ensemble avec les Illustrator. J'espère que tu as ce disque.
Excellent. J'ai pas encore eu le loisir de rencontrer pour de vrai Benoît Blueboy, mais j'espère qu'à l'occasion ça se fera.
Bah bien sûr. Et voilà, c'est un garçon très très abordable, je peux te dire. Parmi les Américains, si on cite plutôt les classiques, tous ceux qui sont décédés il y a plus d'un demi-siècle, je sais pas moi, Little Walter, Sonny Boy Williamson, des gens comme ça. Ça te parle ?
Mais dans ce cas-là, ce serait plus James Cotton, qui est décédé il y a quelques années.
Ouais,
ouais. Parce que lui, il avait une puissance dans son jeu incroyable.
Junior Wells aussi, peut-être ?
Ouais, Junior Wells, j'adore Junior Wells, je le mets dans mon top 3, ouais. Alors lui, c'est un de ceux qui est plus difficile à copier tellement il a un jeu personnel, quoi.
Alors tu parles de James Cotton, on parle de Junior Wells, on peut ajouter peut-être Billy Branch, et puis on ajoute encore un quatrième, et puis on aura le super Harp Attack, tu sais, l'album enregistré en 90 chez Alligator Records, avec ses quatre fabuleux harmonicistes.
Oui.
C'est un truc que tu as dans ta discographie, ça?
Oui, bien sûr, ouais. Ouais, il est excellent cet album. Il y a aussi Carrie Bell,
voilà, exactement. Carrie Bell. Ce sont des artistes pour certains que tu as vus sur scène ou pas du tout?
Et non, malheureusement, moi, à chaque fois que je découvre un artiste, soit il est mort, soit il va bientôt mourir.
Bon, Billy Branch, il est en pleine forme, je peux te dire, en tout cas.
Et bien ça, oui, j'aimerais bien le voir, avec plaisir, par contre. Ouais,
est-ce que tu donnes des cours d'harmonica, Lou?
Ça m'est arrivé d'en donner quand j'étais dans l'Aveyron, et peut-être je reprendrai quand je serai un peu plus stabilisé géographiquement. Ouais.
Est-ce que, alors, on parlait des États-Unis, on a évoqué tes premiers voyages en famille, et puis là, pourquoi pas un voyage à Chicago, je sais pas, pour aller rencontrer Billy Branch. Mais enfin, tu parlais de la Highway 61 qui fait Memphis Nola. C'est vrai que c'est une dentelle pleine de perles à visiter, prétexte à rechercher les traces du passé du blues. Est-ce que tu as fait quoi, le tour des bars, le tour des disquaires, le tour des cimetières pour retrouver les tombes des bluesmen disparus? Comment c'était ton voyage, pèlerinage?
Écoute, j'y suis allé plusieurs fois, mais disons que la première fois où je m'y suis retrouvé vraiment tout seul, c'est j'avais étudié un semestre à San Francisco, et puis j'ai profité de la fin de mon visa pour descendre en stop de Memphis jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc je suis passé par Clarksdale et puis plein d'autres bleds, et c'était vraiment au fil des rencontres. Moi, vraiment, bon, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'était de pouvoir aller dans les quelques job joints qui restent, c'est-à-dire ces bars sans prétention dédiés au blues live. Donc, pour citer par exemple Red à Clarksdale ou Ground Zero. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai su retourner une fois un mois et demi complet, la Nouvelle-Orléans, évidemment, quoi.
Ouais.
Frenchman Street, là, bon, tous ces clubs animés parfois de 15h jusqu'à 2h du matin avec que des concerts dans plein de styles différents, d'ailleurs, hein, jazz, blues.
Tu as fait l'expérience du Preservation Hall à la Nouvelle-Orléans?
Non, il faudra que j'y aille, ouais.
Ah ouais, bah oui, il y a toujours une bonne raison de retourner à la Nouvelle-Orléans, on est bien d'accord. Tes caractéristiques stylistiques, moi je les écoute quand je me passe l'album, il y a 10 morceaux, on écoute du swamp, du cajun, du zydeco, du blues, du rock'n'roll, de la country, de l'americana. Est-ce que toi tu fais partie de ceux qui casent la musique dans différents styles, ou pour toi, est-ce que le fait de labelliser comme ça les musiques, c'est quoi? C'est pratique parce qu'on sait de quoi on parle, ou alors c'est inutile parce qu'il n'y a que deux musiques, la bonne et la mauvaise, ou alors ni l'un ni l'autre?
C'est une bonne question. C'est vrai que quand il faut mettre un style de musique, par exemple sur une affiche ou sur la promo, c'est toujours compliqué, par exemple, pour ce que je fais, parce que si on met que blues, on va souvent penser Chicago blues, et parfois des trucs un peu lents qui peuvent, pour certains publics, être ennuyeux. Moi, je pense que les labels, enfin les noms de musique, ça a été créé, effectivement, je pense, pour des raisons avant tout commerciales. Et je te rejoindrai plutôt sur la musique. Il y en a que deux, là, la bonne et la mauvaise.
Très bien. On va continuer à écouter la bonne. On va écouter un nouvel extrait de cet album Back to Louisiana. On se retrouve juste après. Lou, ça s'appelle Missing You.
Baby, I'm living your baby. till I go back home. I'm a trouble, baby, until I go back home. I wish the clock would hurry up. I'm missing you. No need to ask me if I do. Yes, I remember Alaska before I flipped. Yes, I still remember Alaska before I flipped. I wish I could test it, cause I'm such a mess. Distance gone. Please hear my long distance gone. I need your love before I leave this town. I'm missing you. I'm missing you. No need to ask me. If I do.
Sweet Home Chicago sur le 666, émission numéro 1099, avec une interview en direct live de Doc Lou, du groupe Doc Lou and the Roosters. L'album s'appelle Back to Louisiana. Et on vient d'entendre un titre un peu rock'n'roll qui s'appelle Missing You. Lou, toujours au téléphone.
C'est ça.
Bon, eh ben écoute, voilà, Missing You, très rock'n'roll. On parlait des labellisations, des catégorisations de style. En tout cas, là-dessus, on peut danser à deux, il n'y a aucun souci.
Ah ouais, c'est important de servir les morceaux Toulouse.
Voilà, question que je n'avais pas prévu de te poser, mais les gens, ils dansent dans vos concerts quand même. Ça bouge un peu, non? J'imagine.
Ouais. C'est vrai que pour nous, on est assez d'accord qu'un concert réussi, c'est un concert où il faut qu'il y ait de l'interaction et du mouvement, quoi.
Voilà, ben on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure la période actuelle qui tendrait à prouver le contraire, malheureusement. On va parler de cet album Back to Louisiana, dont le titre peut laisser penser que vous venez de là-bas. Alors, quelle est la part de Louisiane qui coule dans tes veines, Lou?
Ben, disons que c'est vrai que à l'automne dernier, et puis encore aujourd'hui, j'avais pas mal de nostalgie des voyages que j'ai fait là-bas. Et il y a énormément d'artistes que j'écoute qui sont nés en Louisiane ou qui jouent en Louisiane, qui jouent pas forcément de l'harmonica, mais je me sens vraiment très influencé par cette musique et qui est protéiforme, hein, qui est métissée, qui est bouillonnante, qui...
Et par exemple, je peux te citer deux, trois artistes louisianais que personnellement j'affectionne beaucoup, savoir si on partage les mêmes goûts.
Ouais, avec plaisir.
Slim Harpo.
Ah oui.
Ouais. Snook Siglin, qui n'est pas harmoniciste.
Ah
oui,
tu vois. Ah, celui-là, je le connais pas. Hein.
D'accord, à découvrir, un garçon qui nous a quitté malheureusement. Snook Siglin, très très bon guitariste, un garçon qui a été découvert dans la rue au début des années 60, qui était aveugle depuis fort longtemps. Un troisième, Dr. John, qui n'est pas harmoniciste non plus.
Ouais, Dr. John, bah, par exemple, j'écoute très régulièrement Professeur Longuerre aussi.
Ah oui, voilà, d'accord. Donc ça, les grands classiques, effectivement. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville et plusieurs styles musicaux qui inspirent beaucoup de musiciens de ce côté-ci de l'Atlantique. Hein. On peut parler des Flying Saucers, on peut parler d'autres personnes, notamment de la région bordelaise. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens du Sud-Ouest qui apprécient particulièrement ce style. Alors toi, tu mélanges ça avec, on le disait tout à l'heure, du blues, du rock'n'roll, ce qu'on appelle maintenant de l'Americana, qu'on appelait autrefois la country and western, qui n'est pas forcément country and western d'ailleurs. Toutes les musiques t'intéressent du moment que ça vibre, du moment que ça te parle.
Et moi, je crois qu'en fait, quand je compose, bon, ça reste toujours un peu magique, mais il y a certaines de mes paroles qui vont plus se marier à un rythme country, d'autres un peu plus à des choses à Ileco Cajun, et puis d'autres plus à un style rock'n'roll. Donc c'est vrai que j'essaie pas forcément de me fermer à un seul répertoire.
Bon, excuse-moi, Lou, on a des petits bruits parasites derrière, je sais pas si...
Pardon, c'est bon là ?
Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de faire un couscous dans l'appartement d'à côté, peut-être, je sais pas.
Non, c'était les écouteurs, je pense, qui grattaient sur mon pull.
et donc, voilà, tous ces styles qui se marient très très bien dans l'album, Back to Louisiana. Si on avait appelé ça Back to Memphis, ça aurait fonctionné quand même ou pas ?
Ah, ça aurait pu fonctionner quand même, mais comme j'affectionne particulièrement la Louisiane, je préférais qu'on parle de ça.
Bon, on va pas parler de ton prochain voyage en Louisiane, pour ça il faudra que tout soit dégagé dans l'avenir. Justement, je voulais savoir comment tu vis cette période inédite et bizarre, même cruelle pour les musiciens et leurs spectateurs, et puis peut-être aussi à travers ça aborder la situation des bars et des clubs en France tout particulièrement.
Ouais, ben bon, pour moi ça a été vraiment très compliqué, hein. Là je sors la tête de l'eau, ça va mieux, mais c'est vrai que ça s'est soldé par je pense une grosse remise en question et puis une dépression hein, aussi hein, sévère, hein, voilà.
D'accord.
Donc qui s'est ajouté à d'autres trucs parce que le contexte n'était pas facile aussi. Mais c'est vrai que quand on se nourrit de la musique live, des concerts, se retrouver derrière un écran, ça n'a rien à voir, quoi. Mmh, mmh.
Et alors pour les bars, pour les clubs, on peut évoquer. Ben, la situation de toutes ces petites entreprises qui sont en train de couler les unes après les autres, finalement, non ?
Ouais, c'est ça, parce que bon, moi, j'ai pas connu l'âge d'or des clubs et des cafés-concerts en France, mais ce qui est certain, c'est que la crise du Covid vient s'ajouter à celle des crises liées au voisinage qui portent plainte pour le bruit, à des établissements qui sont obligés de faire des travaux pour se mettre aux normes. Et là, je pourrais donner quelques exemples, mais par exemple, le Jam à Marseille a dit qu'ils allaient fermer parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, donc ouais. un petit club de jazz. On a l'Utopia à Paris qui déjà avant faisait plus de concerts parce qu'il y a eu des soucis de mise aux normes. Voilà, est-ce que ça va rouvrir ou pas? Et si tu veux, moi ce qui me touche, c'est que si j'ai voulu faire cette musique, c'est aussi parce que l'ayant découvert aux États-Unis, j'ai vu que c'était une musique vivante qui avait lieu dans des clubs, dans des cafés-concerts, dans des choses accessibles et locales.
Ouais,
et
ouais.
Si c'est pour que le blues soit uniquement dans des festivals ou des salles de musique subventionnées, bon, c'est très bien. Mais en fait, ça peut pas suffire parce que on a besoin que le public puisse entrer en contact facilement en entrant dans un bar, dans un club dédié à cette musique. Et comme c'est souvent des passionnés, eh ben déjà économiquement c'est difficile à faire tenir. Donc si on double ça d'une crise liée au Covid, on sait pas trop quoi ce qui va rester comme club en France à l'issue de cette
effectivement
crise.
Et puis tu parlais des grandes salles et des festivals, moi aussi j'adore écouter du blues dans ces contextes là par contre c'est impossible de faire le bœuf si on est musicien amateur, on peut se frotter aux autres que dans les bars finalement.
Oui, et puis les festivals, bon moi j'en ai encore fait très peu, mais c'est aussi quelque chose de niche qui est réservé à des gens qui ont déjà fait leur preuve, et donc s'ils peuvent pas faire leur preuve dans les clubs ou les cafés concerts, je veux dire
Alors, donc, ouais. C'est ça. En général, on démarre petit. Après, effectivement, j'ai jamais entendu parler d'un patron de festival qui embauchait des gens qui n'avaient jamais fait de bar ou quasiment pas. Enfin, c'est là qu'on fait ces gammes. Hein, j'ai envie de dire, c'est bien naturel. Et là, tout de suite, c'est juste impossible. Donc, voilà, c'est la sélection naturelle. On est en train de supprimer l'alimentation de base du bluesman et pour monter sur des grandes planches, sur des festivals, dans des grandes salles. Eh bien, on va finalement revenir sur les mêmes noms, les mêmes éternels artistes qui sont confirmés finalement.
C'est ça c'est le risque et je crois que sauf à une intervention quoi, des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales pour soutenir des lieux vraiment indépendants, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de subvention publique, mais qui permettent à cette musique vivante d'exister. Mmh. J'ai l'impression que ça risque d'être très compliqué à l'issue de la crise sanitaire pour ces établissements de rouvrir dans de bonnes conditions.
Ouais. Alors, on souhaite bonne chance et bon courage, bien entendu, à tous ces gens-là. Ça fait déjà plus d'un an que ça dure. Je ne sais pas combien de temps encore ça va durer. Toi, tu remontes la pente, tu disais, et peut-être pour terminer sur un sourire, quel serait... voilà, cet album vient de sortir, mais je pense qu'il y en a déjà un autre en préparation. Quel serait l'artiste que tu rêverais d'inviter sur ton prochain album, Lou ?
Oh là là, c'est... Je crois que j'aimerais bien jouer un peu avec l'équipe que j'avais connue il y a une dizaine d'années sur Paris, des musiciens comme Thibaut Chopin,
ouais.
Benoît Blueboy aussi.
Ça tombe bien, ils jouent ensemble régulièrement. Hein.
Ouais, Stan.
Stan Barpacha.
Tous ces gens-là, quoi, Nico Duportal, qui m'ont donné envie de faire cette musique, et puis d'autres que j'ai rencontrés. Alors, il y a quand même eu du positif dans cette crise sanitaire, c'est que avec le numérique, moi, je me suis rapproché de gens que j'avais jamais vus sur scène, mais dont j'étais fan, quoi, comme Fabio des Flying Saucers, ouais. Ou aussi les frères Jazz de Douzedou. Et c'est vrai que c'est des gens avec qui j'aimerais bien partager la scène et pourquoi pas le studio.
Très bien. Bah en tout cas, voilà, ça me semble pas des rêves totalement irréalisables. Et puis, tu as tout ton avenir devant toi. Rappelons que tu n'as que 31 ans, Lou. Et à cet âge-là, on est loin d'être un vieux bluesman. Je sais pas à partir de quel âge on devient un vieux bluesman. Quand est-ce que tu te considéreras comme un vieux musicien, dis-moi? Jamais, peut-être.
Musicien. Écoute, quand je serai proche de la tombe, peut-être.
Donc juste avant la fin, d'accord. On n'a pas parlé des différentes formules que tu proposes. On a évoqué bien sûr Doc Lou and the Roosters en trio, mais tu continues à proposer Doc Lou and Jeff Ash en duo, Doc Lou en solo. Hein, tu te produis également en solo. Est-ce que tu continues également le duo avec Simon Clark?
Ça on verra. Ouais, ça se pourrait à l'avenir. Mais là, par exemple, pour cet été, malgré la situation, là, on a réussi à décrocher quelques dates. Et on va les faire principalement en trio. J'ai vraiment mis la barre haute, mais je me suis dit, bon, allez, il faut défendre cet album. Donc, on va jouer, c'est beaucoup des campings dans le sud de la France, parce que c'est un peu les seuls lieux pour l'instant où ils espèrent pouvoir reprendre les spectacles. Mais ça va vraiment être le trio qui va être mis en avant.
Pour se procurer l'album, j'imagine qu'on peut aller sur docloublues.com. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Est-ce qu'il est digitalisé?
Oui, alors là, actuellement, il est sur toutes les plateformes.
D'accord.
Donc, on peut l'écouter en streaming. Maintenant, bon, la vraie manière de soutenir, c'est encore d'acheter le disque qui a un prix très abordable. Hein, pour 10€, on peut se le procurer. Et soit en me contactant via le site ou via la page Facebook de Doc Lou and the Roosters.
Voilà,
on
t'a simplement.
Ça me ferait un plaisir de l'envoyer.
Très bien, le Facebook Doc Lou and the Roosters ou Doc Lou Blues, docloublues.com. Toute dernière question, Lou, avant qu'on se sépare. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Doc Lou and the Roosters pour les mois à venir?
Et qu'on puisse remonter sur les planches.
Ouais, je crois que c'est malheureusement le souhait de tous les musiciens actuellement. Ouais, ouais.
Certains artistes ont réussi à s'adapter, mais moi je trouve que vraiment la musique blues, une musique vivante, c'est important de pouvoir la jouer face à un public et de ressentir cette interaction. C'est pas fait pour être que vu en vidéo, quoi.
On va écouter un dernier extrait. Je te remercie d'avoir participé à cette 1099e émission en direct live. Doc Lou and the Roosters, on continue à suivre l'actu. Merci à toi, Lou. Longue vie à ton groupe et à toi en tant que musicien.
Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Ciao.
Ciao. Vibration, it makes us happy all the time. Love and light is a warm combination. It gives us serenity by and by. I used to be a sad, sad man of tears. I bought my chains with gratitude and thanks. Freed myself from pain. Love and light is a
desecration. It tames all sorrows and gives us calm. Love, love and light is a quiet perception for better. With gratitude and thankfulness, I free myself from pain.
Voilà, plus contrisant celui-là. C'était Love and Light, toujours extrait de Back to Louisiana. Vous l'avez entendu, Doc Lou qui vous propose ce disque 10 titres pour seulement 10 euros. Vous n'hésitez pas, vous allez sur son site docloublues.com ou sur le Facebook Doc Lou and the Roosters. Nous, on continue avec le disque du mois. C'est toujours Tiger Rose. Voici Going Away Blues sur l'album Boogie Blues and Roots. Voilà, dernier extrait de ce disque du mois, l'album Boogie Blues and Roots à partir du mois d'avril. C'est le We Need Hope de Little Bob qui nous accompagnera et qui sera d'ailleurs l'invité de la prochaine émission. En attendant, voici une vieillerie, la rubrique vieillerie de la fin de l'émission. Il s'agit d'Albert King, Can't You See What You're Doing To Me, chez Stax, sur l'album Funky London. On est en 1970. We'll be right back.
what you done to me. Hey, baby, 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 can't you see what you done to me? Well, you say you're gonna leave me, darling. You're going back to your old time used to be. I work two jobs, I bring all of the pay. If you tell me you love me and try to do some things my way, hey baby, can't you see what you're doing to me? Well, you say you're gonna leave me, angel. You're going back to your old time used to be.
1970, l'album Funky London chez Stax Records avec Albert King. On reviendra sur Albert King au cours soit de la rubrique Vieillerie, soit de la rubrique 50 Years After. La voici, 1971, album Pendulum. Ça s'appelle Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight! Salut, bye bye!
Hey.
Voilà, je vous laisse avec Dan et cette nouvelle émission Moonshine Blues numéro 7. Salut à tous!